Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 19 mai 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, la question que je te pose à tous les semaines, qu'est-ce qui a retenu ton attention sur les marchés depuis la dernière semaine?
En général, les marchés cette semaine sont plutôt neutres. Par contre, l'indice technologique Nasdaq a bien fait. Hier, juste petite note, là, puis je vais le mentionner, et peut-être vous avez remarqué là, ce matin en vous réveillant que votre compte avait perdu beaucoup, beaucoup de valeur, tu sais, parce que en fait, c'est un bug un peu informatique, si on veut, quand les marchés canadiens sont fermés, mais que les marchés américains sont ouverts, ça peut arriver des fois que le compte il a l'air un peu étrange. Là, ça s'est résorbé rapidement. Fait que ça a retenu du moins mon attention et celle de quelques clients qui ont téléphoné ce matin, ayant eu l'impression d'avoir subi une baisse qui n'était pas réelle. Donc, on a des marchés canadiens en baisse de 1% cette semaine, 0% mois à jour, plus 7% depuis le début de l'année. Ce que je constate, là, il y a plusieurs personnes, il y a 3-4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois qui appelaient. L'or, on achète-tu de l'or? C'est le temps d'acheter de l'or. Mais je ne me souviens pas que personne m'a appelé pour acheter du pétrole il y a 3-4 mois. Là, par contre, ben, l'or est en baisse de 13% depuis 3 mois. L'or étant l'indice XGD, là, donc les producteurs aurifères, donc pas nécessairement le métal lui-même, et alors que l'indice des compagnies de pétrole en hausse de 22. Donc, tu sais, c'est drôle que personne voulait du pétrole il y a 3 mois. Tout le monde voulait de l'or, mais c'est peut-être l'inverse qu'il fallait faire. C'est juste une petite leçon de morale sur faire attention à qu'est-ce qu'ils viennent juste de bien faire. C'est pas toujours ce qui performe parfaitement bien par la suite. Ce qui retient aussi mon attention, on parle de, en anglais, ils disent le SaaSpocalypse, donc l'apocalypse des compagnies informatiques. Au Canada, là, ça se retrouve, par exemple, dans Constellation Software, groupe CGI, Shopify est aussi victime de ça. Donc, l'intelligence artificielle qui vient un peu empiéter dans ces plates-bandes-là, du moins qu'il y a une crainte que, soudainement, l'intelligence artificielle va remplacer toutes ces compagnies-là parce qu'on peut vibe-coder n'importe quoi. Donc, l'indice info-technologique au Canada baisse de 17% année à jour. Donc, l'ensemble du marché performe bien, mais il y a certains secteurs où c'est un petit peu plus difficile. Côté américain, même chose, ça va quand même plutôt neutre cette semaine, mais en hausse de 2,4 depuis le début du mois, 7,8 depuis le début de l'année. Et du côté international, donc le ZEA, l'indice MSCI Europe, Asie, Australie, en hausse de 1,5 ce mois-ci. Les taux d'intérêt, là, ce qui me préoccupe, s'il y a une chose là, qui retient mon attention depuis une semaine ou deux, là, c'est vraiment la hausse des taux d'intérêt. Oui, sur les taux 5 ans, 10 ans, mais aussi je vois que les 30 ans US, là, du côté américain, les obligations à 30 ans ont dépassé la barre des 5% puis dépassé là, de comme 10-15 points de base. Donc ça peut devenir préoccupant. Là. C'est le coût de toute la dette du monde qui est un peu basé sur le marché obligataire. Donc ça a un impact sur un peu tout le monde. Donc là, je vous ai donné quelques nouvelles un peu moribondes, là, mais il y a quand même des choses qui vont bien. Là. Power Corp, nouveau sommet de l'année aujourd'hui. Banque Royale, Banque TD, Costco. Donc tu sais, il y a quand même plusieurs très bonnes histoires dans le marché. Et là, ben, qu'est-ce qui va me garder réveillé cette nuit? Ben, c'est les résultats financiers de Nvidia demain, qui est toujours un titre qui fait bouger le marché. À la hausse ou à la baisse, on ne sait pas, on verra bien. Mais c'est quand même un titre très important à suivre du côté technologique qui influence souvent beaucoup tous les titres du fameux Mag 7, les 7 magnifiques.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, pour nous aider à avoir une certaine perspective sur les marchés, sur l'économie, nous avons la chance d'accueillir Jean-René Ouellette avec nous. Si vous ne le connaissez pas, Jean-René, c'est notre analyste senior et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de patrimoine Desjardins. C'est un peu comme le conseiller des conseillers. Il parle beaucoup à nos clients aussi. Bonjour, Jean-René, et merci beaucoup d'être là.
Bonjour à vous.
Donc, Jean-René, l'année passée, on a entendu parler beaucoup de possibilités de récession, même de notre économiste à nous, hein, inflation, ralentissement, taux d'intérêt élevé, mais on n'a pas vraiment ressenti cette récession-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec la récession au Canada?
Oui, en effet, moi, je me rappelle très bien, le printemps dernier, l'économiste en chef du mouvement Desjardins, Jimmy Jean, écrivait « Récession probable au Canada, possible aux États-Unis. Tu sais, utiliser le mot récession, là, c'est un gros mot dans notre sphère, mais on doit bien réaliser que l'année dernière, Trump, suite au 2 avril, et quand il a déclenché son conflit commercial avec le reste de la planète, je me mets dans les souliers d'un économiste qui doit intégrer 35 % de tarifs sur l'ensemble de nos exportations. Évidemment que si je projette ça et que ça s'applique, ça fait excessivement mal, ça fait peur et ça nous plonge probablement dans une récession. Ceci dit, on l'a vu lorsque le marché obligataire a mis de la pression et que le dollar américain a flanché quelque peu, près 7-8 jours après le déclenchement du conflit commercial le 2 avril l'année passée. Bien, on a vu que Trump a abdiqué, a, bon français, choqué et aidé à la pression. Trump always chickens out et a reporté l'application des tarifs sur la Chine et bien d'autres pays. Puis on doit réaliser que finalement, j'ai presque 90% de mes exportations canadiennes qui sont exemptes de tarifs pour l'instant, que le tarif effectif moyen au Canada, c'est 3,8 %. Ça va changer un petit peu avec les modifications à la charte 232, mais on n'ira pas là, c'est une technicalité. Grosso modo, on doit réaliser que malgré tout le bruit, le gros de nos exportations demeure exempte de tarifs. Et comment le conflit commercial se fait surtout sentir chez nous de deux manières. Face à de l'incertitude, nos entrepreneurs font deux choses. Ils gèlent les embauches, ils gèlent les investissements. Fait qu'on ne voit pas beaucoup de congédiements, mais on ne voit pas beaucoup d'embauches non plus. C'est assez timide. Ça dessine un ralentissement économique, mais pas de catastrophe puis pas de gros mots qui commencent par R.
Merci, Jean-René. Malgré les tensions géopolitiques, puis ça, c'est une question qu'on se fait poser beaucoup, surtout les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les marchés continuent de monter. Comment t'expliques ça que les bourses sont en train de dire « Ah, ben c'est correct, on continue. »
La vie est tellement belle.
Oui.
OK, il y a beaucoup de bruit, on en convient. Puis, on réalise, c'est clair maintenant que le monde est multipolaire. Un monde multipolaire se veut conflictuel. Puis, quand on parle de conflit, oui, on peut avoir peur. Ceci dit, ce qui est important, c'est de garder la tête froide. Souvent, on dit que les marchés n'ont pas de cœur. La guerre sera toujours horrible. Il y a des gens qui meurent sur le terrain, il y a des gens qui sont affamés sur le terrain, il y a des choses horribles qui se passent dans une guerre. Mais votre responsabilité à vous, puis notre job à nous collectivement, c'est de regarder quelles sont les perspectives économiques. Est-ce qu'on voit l'économie continue de progresser? Est-ce qu'elle crée des embauches? Est-ce que les revenus des entreprises sont à la hausse? Est-ce que les bénéfices sont à la hausse? Des fois, ça a l'air un peu sans cœur, mais c'est justement un peu sans cœur. Puis on doit travailler de manière un peu probabiliste dans ces choses-là. Puis oui, il peut se produire des choses dramatiques. On a le droit d'avoir peur. On a le droit humainement de se poser des questions puis de trouver ça challengeant et qu'il y a des choses horribles. Sauf que quand on rentre dans le domaine de l'investissement, c'est super important de garder la tête froide, de faire fi du bruit et de regarder quels sont les différents scénarios économiques devant nous. Puis, à ce que je sache, malgré qu'on a déclenché le conflit commercial par M. Trump en avril de l'année dernière, les revenus des entreprises continuent de progresser, les échanges continuent de progresser, les bénéfices des entreprises sont à la hausse, on vient de clôturer une période d'application des résultats. Grosso modo, cette année, on s'attend à ce que les bénéfices de S&P 500 progressent de 14 ou 15 %. C'est pas fort, c'est super fort.
Et excellent, voilà, c'est ça. Là.
Oui, c'est, Martin, c'est des genres de croissance qu'on voit dans des débuts de relance. Dans des lendemains de récession, quand on part d'une base super faible, d'habitude, on affiche des croissances plus fortes. Mais là, ce qu'on a maintenant, c'est quand même assez, j'allais dire spectaculaire. Spectaculaire, c'est peut-être trop fort, mais quand même, surtout où on est dans le cycle économique, de voir cette robustesse-là. Tu sais, quand certains intervenants disent que ce marché-là est dépourvu de fondamentaux puis c'est que de la spéculation, c'est faux, c'est pas vrai. Ce marché, quand la marée lève, ça lève tous les bateaux en même temps, pas de manière égale là, dans le cas de l'investissement, mais il faut bien comprendre qu'ici, dans ce cas-ci, comme la croissance des bénéfices, moi, je ne suis pas surpris de voir les marchés faire des nouveaux sommets. Les bénéfices sont au rendez-vous.
Ben, tu sais, je connais pas les chiffres absolument par cœur parce que ça change tout le temps, là, mais tu sais, il me semble qu'on était comme à 23, 24 fois les bénéfices là, au début de l'année, anticipés sur les 12 prochains mois. Puis là, on est comme à 21. Pourtant, le marché est en hausse. T'sais. Donc, le marché, oui. il n'est pas plus élevé qu'il était. Il est moins cher qu'il était, même si le prix de l'indice a augmenté.
Tu sais, Martin, c'est rare qu'on voit de manière prolongée un ratio cours d'évaluation diminuer en dehors des épisodes où les bénéfices baissent. Puis c'est rare que les bénéfices baissent en dehors des épisodes de récession. Pas que le marché, on le trouve super cheap. Mais moi, dans un contexte où l'économie roule quand même correctement. Donnez-moi un semblant d'accord commercial avec les Américains et le Mexique au début de l'été, le début juillet. Donnez-moi un apaisement aux détentions au Moyen-Orient, ou juste un statu quo, une couverture partielle dormeuse, mettons. Puis, croissance des bénéfices qui se poursuivent. Peut-être que je pourrais même aller gagner un, deux ou trois points d'évaluation. La bourse deviendrait plus chère, ça se peut, c'est vrai. Mais quand c'est cher, on ne peut pas empêcher le marché de devenir encore plus cher. À l'inverse, quand c'est faible, des fois, ça peut toujours devenir encore plus faible. Mon point, puis je le faisais l'exercice en début d'année, autant il y avait des scénarios, des pronostics qui pouvaient être neutres, assez modérés ou même négatifs en début d'année. Le scénario que j'estimais qui était le plus sous-estimé, c'est celui dans lequel progresser, ratio, pardon, bénéfice progresse de 15% cette année, donnez-moi 2 points de multiple d'évaluation. Puis ça se peut qu'en 2026, on fasse encore 20-25% de croissance sur les bourses nord-américaines. Là, ce n'est pas le scénario de base, c'est un scénario
optimiste, mais quand même.
Mais il faut le faire. Puis le message que je livrais avec ça, pourquoi je le faisais? Parce qu'il faut faire attention à ne pas être trop sous-investi. Il faut bien conserver son investissement, rééquilibrer, rebalancer, d'avoir de la discipline dans l'investissement. Puis oui, c'est facile d'avoir peur à cause des conflits géopolitiques, mais de revenir à la table à dessin, puis d'avoir la tête froide quand on prend nos décisions d'investissement, je pense que c'est la clé pour se protéger du bruit ambiant.
Ça, les marchés, ils ne bougent pas nécessairement en fonction de la nouvelle elle-même, mais comme de la trajectoire de la nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle qui est moins mauvaise que ce qu'on pensait, mais c'est une bonne nouvelle. Puis c'est un peu ça qu'on a finalement. On n'a pas encore des très, très bonnes nouvelles, mais les nouvelles sont bien moins pires que ce qu'on appréhendait. Puis finalement, ça performe quand même de façon adéquate.
Puis, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, ben, c'est propulsé par l'IA, cette montée de la bourse? Est-ce que c'est quelque chose que tu crois? Est-ce que, comment tu vois ça?
Pas besoin d'y croire. On le voit, c'est là, c'est factuel. En partie, c'est ça. Mais Martin disait tantôt la performance des banques canadiennes, est-ce que c'est uniquement propulsé par l'IA? Non, non, c'est entre autres propulsé par des bilans solides, une activité économique qui est moins pire qu'escomptée. J'ai pas trop d'augmentation des défauts sur les hypothèques ici et ça. Est-ce que les banques canadiennes, c'est juste l'IA? Non, non, je pense que les banques canadiennes vont peut-être utiliser de l'IA éventuellement, mais pas encore. Est-ce que c'est juste ça? Non. Il y a des sommes astronomiques qui s'investissent en intelligence artificielle, certes, aujourd'hui, mais il y a des compagnies qui en profitent, qui font des sommes extraordinaires, qui ont des marges bénéficiaires, qui ont des bilans. Je ne dis pas que c'est juste l'IA, mais l'IA est une partie importante de la hausse des bénéfices, mais on n'a pas besoin de dire si c'est vrai ou pas. C'est là, c'est factuel, on le voit dans l'état des résultats des entreprises du secteur.
Puis si on se projette un petit peu vers l'avant, selon toi, les principaux défis économiques à venir pour le Canada dans les prochaines années. Canada, puis on peut élaborer pour d'autres pays si tu veux, là, mais surtout au Canada chez nous.
Non, je pense qu'on va en avoir assez du Canada. Juste en regardant, autant, tu sais, j'ai une vision économique des choses qui n'est pas très négative à court ou moyen terme, donc tu sais, je suis assez positif de nature. J'ai l'impression qu'on fait face quand même à certains défis qui sont peu développés. Oui, on connaît le sous-investissement qu'on a eu en machinerie, équipement, outillage au cours des dernières années. Parfait. Moi, j'ai l'impression que ça peut revenir nous hanter. Si jamais on a une reconduite de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, qu'Hydro-Québec enclenche les projets qu'ils veulent enclencher, que le gouvernement fédéral enclenche les projets qu'ils veulent enclencher, mais qu'on n'accueille plus d'étrangers. Et qu'à cause du vieillissement de la population au Québec, j'ai des régions là, qui vont être en décroissance de population active. Tu sais, maintenir de l'activité économique en région, c'est deux choses. C'est combien j'ai de gens pour travailler, puis comment je les rends productifs. Or, on le sait là, qu'il y a des départs à la retraite qui s'en viennent, puis on ne les remplace pas dans certaines régions. Fait que pour faire la même richesse, ça va me prendre moins de monde. On a besoin de travailler en productivité tantôt. Puis là, si on décide de changer notre fusil d'épaule dans quelque temps, dire, ben, finalement, les étrangers, on veut les accueillir. Hey, on va leur avoir dit, viens, viens pas, viens, viens pas. On n'a pas l'air très crédible, très certain comme notre volonté d'être une terre d'accueil. Fait que j'ai l'impression que très rapidement, en 27, en 28, on pourrait se retrouver dans des situations de pénurie de main-d'œuvre telles qu'on l'a vécu même avant la COVID. Et ça pourrait devenir un boulet ou un frein à la croissance économique. Ça pourrait avoir aussi comme impact de générer de l'inflation, forcer la Banque du Canada à augmenter les taux, mais dans quelques années, là. On verra rendu là, mais je pense que l'enjeu démographique au Québec est un aspect qui est trop peu discuté pour l'instant.
Puis c'est là que l'IA vient peut-être un petit peu aider certaines entreprises, peut-être, tu sais, de remplacer 3, 4 personnes, pas parce qu'on veut juste les remplacer, parce qu'ils sont juste à la retraite. Il faut les remplacer, là, d'une certaine façon.
On va être capable d'en remplacer certains par plus de puissance technologique, possiblement, mais pas tous. Puis la
Non.
démonstration reste à faire. Bref, à suivre.
Oui, absolument. Puis ça, la problématique démographique au Canada, au Québec, on en parlait à l'école, je me rappelle.
Au secondaire, en économie, en quatrième secondaire, on parlait de ça, là, des
Oui,
baby boomers à la retraite.
puis c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Donc, merci beaucoup, Jean-René, d'amener ce point. Merci beaucoup aussi pour tes perspectives. Merci à toi, Martin. Et merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions ou vous souhaitez discuter de votre situation, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, sont toujours là pour vous accompagner. Nous prendrons une pause de notre balado pour les 2 prochaines semaines et serons de retour le 10 juin. À très bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.